Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Et nous allons faire maintenant la connaissance de Karen. Bonsoir à vous, Karen.
Oui, bonsoir Sabine. Vous m'entendez bien ?
Oui, soyez la bienvenue, Karen. Je vous écoute.
Je vous remercie beaucoup de me prendre à l'antenne, vraiment, sincèrement.
Avec plaisir.
Bon, je suis au taquet, mais je suis un petit peu morte de trouille.
Ça va bien se passer.
Depuis des années et depuis 5 ans, ce sont les 2h30 d'émission dont je ne rate pas une minute. C'est-à-dire que ce sont les heures où je peux un peu souffler de mes corps, entre guillemets, tâches de la journée, étendre le linge. Donc je passe d'une pièce à l'autre et j'ai 3 transistors allumés et je ne peux rien louper. De toute façon, tout est intéressant et la dame d'avant m'a beaucoup touchée aussi.
Ah, Francine, vous la connaissiez, vous l'avez entendue déjà à l'époque ?
Oui, bien sûr. Ouais. Mais
Quelle histoire,
mais qui n'est pas finie pour elle parce que vu ça. Son état, je pense qu'elle est partie pour vivre très, très, très longtemps. Mmh. Et je pense que son homme a connu le bonheur, même s'il se fait un petit peu tardivement. Elle est partie dans cet état d'esprit de fin de vie totalement aboutie, heureuse dans l'amour. Mmh. Donc c'est beau.
Oui, c'est beau. Mmh. Et vous, Karen, alors votre histoire de vie, c'est quoi ?
Oui, alors juste si je peux me permettre avant, n'hésitez pas. Que je suis sous corticoïde et donc j'ai tendance à parler très vite, trop vite. Là, je fais des efforts, mais n'hésitez pas à m'arrêter. Et si vous me le permettez, je vais faire en très, très brièvement, vraiment, un tout petit résumé, vraiment bref, et ensuite vous répondre à des questions éventuelles de votre part.
Oui,
et
puis, prenez le temps surtout, il n'y a pas de précipitation à avoir.
Hein. D'accord.
On se pose, on se fait un bon thé et on prend le temps.
Oui, je suis à la tisane, là. Tisane, je suis très tisane.
Oui, j'en veux bien une aussi. Merci.
Gingembre, citron, c'est très bon.
Ah, j'adore.
C'est succulent. Alors, en fait, le but de mon appel, c'est que vous puissiez me donner, après le bref résumé que je vais vous faire de mes petits soucis, quelques petits conseils concrets pour m'apaiser, pour, respiration, méditation, tout ça. Mais que je peux faire toute seule chez moi, dans ma chambre, à ma fenêtre, en regardant les arbres comme je suis là. Oui. Parce que je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de moyens de locomotion. Et j'ai une psychologue qui vient me voir à peu près une fois par mois depuis 1 an et 4 mois. Mais elle ne pratique pas ni EMDR, j'ai des images traumatisantes. Bon, je prends à la base et après, n'hésitez pas à m'interrompre, mais je vais essayer de faire le résumé très rapide. Donc j'ai 48 ans. Je suis née à Pau. Maman était infirmière. L'accouchement s'est bien passé. Il n'y a pas eu de drame. Mais il se trouve qu'elle avait en surveillance toute la gestion du bloc psychiatrique de nuit toute seule. Mmh. Et un malade s'était échappé de sa chambre et l'a poursuivi pendant 4 heures avec un grand couteau pour essayer de l'éventrer. Ne l'a qu'effleuré. Elle était enceinte de moi de 8 mois. Elle s'apprêtait à s'arrêter. Bon, à ma naissance, elle n'a plus jamais retravaillé. Elle n'a jamais eu besoin d'être hospitalisée en psychiatrie ou autre, mais elle a vu un psychiatre pendant des années. Je l'ai connue en crise d'angoisse perpétuelle sous Xanax. Moi-même, j'ai commencé le Xanax et des anxiolytiques très rapidement parce que j'ai hérité de sa sensibilité, de l'anxiété exacerbée. Mmh. Donc je sais à la base que toute ma personnalité et la vie que je me suis forgée vient de là. Je n'en doute pas une seconde. Il y a eu un traumatisme. Bon, je suis la petite dernière de 4 enfants. Quand je suis née, l'aîné avait déjà quitté la famille pour prendre sa vie en main très tôt. À 14 ans, il est parti. Il voulait faire luthier. Il est luthier. Bon, donc je l'ai très peu connu. On s'est très peu vu dans la vie. Et maintenant, on est en froid total depuis à peu près 2 ans. Voilà. Il a 60 ans. J'en ai un gros écart. Ensuite, j'ai ma sœur. Elle a 60 ans cette année, qui habite Paris aussi comme mon frère aîné. Moi, je suis dans les Landes, une petite ville géniale, Parentis, superbe. Tout ce que j'aime, là, j'ai mes hérissons en train de manger, là en bas, malgré la fraîcheur. J'ai les arbres, j'ai toute ma vie que j'aime. Enfin, je suis ensuite mon frère Nils, qui lui, pardon pour le prénom, mon frère le plus jeune, qui est né donc avant moi, qui est décédé il y a 2 ans, à l'âge de 53 ans. Et moi, je nais à Pau dans ces conditions-là, un peu compliquées. De là, pendant mes deux premières années, dixit mes parents, si on m'enlevait des bras de maman, je ne faisais que pleurer et
oui,
et hurler.
L'angoisse était à double sens, forcément. Quoi.
Totalement. Ouais. Et puis, pour autant, maman m'a toujours dit, ma fille, tu es ma chérie, tu m'as sauvé la vie. Dans ses pires crises d'angoisse quand j'étais ado, même adulte, plus récemment, elle m'a toujours dit, maman, ma fille, tu m'as sauvé la vie. Et bon, ça a été ensuite, j'ai quitté Pau très tôt, j'avais 1 an quand on a déménagé. Parce que malheureusement, papa, qui est l'homme de ma vie comme maman et la femme de ma vie, s'est toujours sacrifié à trimer, à faire des boulots, beaucoup de licenciements économiques à l'époque. Et bon, bah, c'était des déménagements en fonction des possibilités d'emploi ou de stage. Donc, j'ai vécu ma toute petite enfance à Ris-Orangis. Je pense que j'ai commencé mes premières crises d'angoisse un peu plus tard à La Rochelle. Ensuite, on a atterri. Je devais avoir 7-8 ans. J'ai pris conscience qu'un jour, mes parents allaient mourir. Et là, je me suis dit, bon, comment faire pour ne jamais les quitter ? La vie a fait que j'ai dû, pendant quelques années, essayer de faire ma vie, mais tout en sachant que je reviendrais près d'eux, puisque depuis que j'ai cet âge-là, le seul but de ma vie, c'est d'être auprès de mon père, de ma mère, parce qu'ils sont les seules personnes auprès de qui je peux avoir tout l'amour et tout ce que j'attends de la vie. De belles valeurs humaines, de la fraternité.
En tout cas, couper, mais en tout cas, c'est le cadre de croyance dans lequel vous vous êtes mise.
Oui, oui. Et c'est une volonté depuis le début, puisque malgré ce qui s'en est suivi depuis 2 ans, qui a été très compliqué pour moi parce qu'assez inédit et très violent, je peux dire que j'aime la vie. Je l'aime et je suis heureuse d'avoir, parce que moi je suis en fin de vie puisque je partirai avec le dernier des deux, donc papa. Et papa a bientôt 87 ans. On vit tous les deux avec nos 5 chats. Maman est décédée il y a 1 an, 4 mois et 4 jours aujourd'hui. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'après La Rochelle, enfance, adolescence dans les Yvelines à Chambourcy, même adolescente, je culpabilisais de que mes parents me disent va faire la fête avec tes potes. Je suis rentrée, je préférais être devant la télé avec eux ou dans ma chambre, mais être près d'eux toujours, c'est là que je me sentais le mieux. Bon, ensuite, il y a eu mes parents partis à la retraite. Bon, papa, vu que maman n'a jamais retravaillé depuis ma naissance, dans les Landes. Et moi, du coup, j'ai laissé mes parents partir dans les Landes en me disant bon, je vais les laisser souffler un peu. Et je suis tombée amoureuse d'un homme, voilà. Je précise que je n'ai eu aucune relation physique, même sentimentale ou quoi que ce soit depuis 17 ans maintenant, parce que c'est totalement sorti de ma vie. C'est pas que ça n'a plus aucun intérêt. C'est pas du tout ma priorité et c'est pas ce que j'attends de la vie. Mmh. Mais je précise aussi que adolescente et jeune adulte, j'ai beaucoup profité de ça, voilà. Maintenant, je me suis mariée. Bon, j'ai épousé un Algérien sans papier. Ça a quand même duré 7 ans. Parce que, au fond de moi, je savais que c'était plutôt un cas social que j'en faisais. Je voulais absolument qu'il ait ses papiers, qu'il puisse. C'était un mec vraiment bien et on est restés très amis. On s'appelle 2-3 fois par an. Il a 4 gamins superbes. Enfin, c'est génial. Il est à Paris. Voilà. Et puis, on a divorcé. J'ai vécu seule avec mon chat. Mon chat est mort en 2011. J'étais dans un HLM studio à Paris. Et en 2015, en surendettement effacé, parce que j'avais tout lâché à la mort de mon chat, je restais cloîtrée chez moi, bon voilà. J'ai demandé à papa et maman, qui étaient évidemment tout à fait en train, puisqu'ils sentaient, ils savaient déjà que j'allais revenir, de toute façon un jour, puisque c'était ce que je voulais dans la vie. C'était mon bonheur d'être près d'eux. Et je les appelais tous les jours. Il n'y a pas 24 heures où je ne les ai pas appelés, la période où j'ai fait ma vie, entre guillemets, sans eux.
Sans eux, oui.
Alors, première année dans les Landes ici, d'où je vous parle, le bonheur, parfait. Papa conduisait encore, donc on allait voir les couchers de soleil au lac. Voilà, c'était génial. On allait emmener maman choisir des fleurs. Bon, super. Et puis, ça s'est compliqué au bout de 2 ans par rapport à maman. Parce que maman a avait subi une ablation d'un rein, donc elle était en insuffisance rénale, incontinente urinaire, et puis elle avait un diabète, insuline requérant. Donc finalement, je suis devenue très vite beaucoup plus dans le soin par rapport à maman. Et puis papa, ça allait encore, hein, papa un rock, sauf depuis 2 ans. Donc le bonheur total, qui est toujours d'actualité, puisque je suis toujours à ma place là où je voulais être. Mais il se trouve que mon frère, je ne dis le prénom que des personnes décédées, ça vient comme ça, parce que je les sens autour de moi. Mon frère Nils, qui habitait à Paris et qui était luthier également, a eu une récidive de tumeur du cerveau qu'il a emportée en septembre, il y a 2 ans,
oui.
2018. Il devait quelques semaines avant venir ici, parce qu'il venait à chaque vacances, hein, voilà, bon, avec ses 3 enfants, mes neveux et nièces que j'aime très fort, qui avaient à l'époque, il y a 2 ans, 17 ans, 22 et 24, qui sont d'une force inouïe et qui sont mon soutien et un exemple. Parce que je me dis que je suis, excusez-moi pour le terme, mais une grosse merde au niveau de faire le deuil de quelque chose, parce que ça ne va pas être possible pour maman. Ça a entraîné maman, qui n'a pas pu dire au revoir à son fils, qu'elle aimait vraiment beaucoup, beaucoup, très proche. Elle s'est murée un peu dans le silence, vraiment. Donc, bon, moi, je gérais déjà maman au niveau prendre ses glycémies 3 fois par jour. L'infirmière venait le matin et le soir lui faire... Non, papa lui faisait l'insuline les premières années. Et puis, bon, papa tremblant un peu avec l'âge, on a préféré quand même pas se couper.
Elle avait quel âge, votre maman, à ce moment-là?
C'était il y a 1 an. Et je vais pleurer parce tout simplement parce que je suis incapable de vous sortir spontanément l'âge qu'avait maman. Papa a 86 ans, maman avait 2 ans de moins.
Donc 84.
84, mmh. Elle allait avoir 83. Voilà, elle est morte à 82 ans. Il y a 2 ans, c'est ça. Et donc, j'ai du mal de l'âge parce que je ne suis pas très chiffre du tout. Et surtout, pour moi, elle n'est pas morte. Donc, c'est compliqué. Alors, en fait, j'étais dans la gestion médicale, comme je vous le disais, mais tout ça avec amour. Hein. J'étais le bâton de vieillesse, non pas consentante, mais plus que ça, volontaire depuis le début. Quand j'avais 15 ans, je faisais rire tout le monde au repas de Noël, parce qu'on disait, oui, papa, par les dettes financières, il n'y aura pas d'héritage. Moi, je dis, la seule chose que je veux, c'est l'urne. Les parents, dans l'urne, je garde, c'est tout ce que je veux. Et ben, ça se confirme, puisque l'urne de maman est dans son lit, que j'ai refait, et que je lui mets Hugo Frey toute la journée, ou Chopin, tout ce qu'elle aimait. Et que je lui offre des orchidées à chaque date fétiche, et que voilà, c'est comme ça, c'est pas très légal, je suis désolée, hein, mais bon, tout le monde a compris, les gens concernés, pompes funèbres, autorités, qui pouvaient pas en être autrement. Donc je suis morte à moitié il y a 1 an, 4 jours et 4 mois, 4 mois et 4 jours, avec maman, parce qu'en fait, 3 mois après la mort de mon frère, donc en décembre 2018, elle a fait une décompensation d'un coup, elle est montée à 41 de fièvre. On a appelé le SAMU, évidemment. Traumatisme, c'est là-dessus qu'il faudra précisément m'aider. Traumatisme qui me revient, qui ne me hante et m'a donné une agressivité terrible, une colère. C'est que le SAMU qui nous a été envoyé, c'était un samedi soir, évidemment, fin d'un début de soirée. Et ça a été un cauchemar. Il faisait un orage, une pluie battante. J'ai aucun nom, donc je ne risque pas de gaffer, hein, rassurez-vous, je ne connais pas les noms.
D'accord.
Voilà, je vous précise. Mais il se trouve que ces 2 ambulanciers, l'un était le patron, et il était très alcoolisé. J'ai su par la suite, puisque nos ambulanciers géniaux depuis 5 ans savent, c'était pas les premiers cas comme ça. Sauf que moi, j'ai vu ma maman, que je soignais et que j'aimais plus que tout au monde et qui me tenait encore la main 3 jours avant de décompenser parce que je vomissais d'une crise d'angoisse moi-même ou me massais le dos pour ma hernie discale qui était encore dans le soin 3 jours avant en regardant un match de foot avec moi, partir sur un brancard sous la pluie à 41 de fièvre avec refus des ambulanciers que je voulais mettre une couverture sur elle. Elle venait quand même de perdre son fils 3 mois avant, elle était en état de choc. Elle n'avait plus assez d'oxygène dans le sang. Ils sont tombés dans le fossé, ils ont bloqué une roue du brancard au lieu de rasseoir maman qui était semi-inconsciente. Ils ont mis 31 coups de pied dans le brancard pour débloquer la roue. J'ai vu la tête de maman partir avec de la bave 31 fois, sans pouvoir la couvrir. Moi, je ne pouvais pas partir parce qu'il fallait que je reste avec papa, évidemment. Je ne peux pas l'en laisser l'un ou l'autre. J'ai accompagné pendant 4 ans maman à tous ses déplacements, quitte à vomir parce que j'ai mal des voitures, voilà. Et que les premiers hôpitaux, c'est à 30 km. Et donc, ils sont partis comme ça. J'étais en état de choc. Bon, je suis rentrée. Ensuite, maman a été quelques 2 semaines en hôpital à la test en gérontologie. Après son passage aux urgences, où ils ont pu la requinquer. Et puis, elle avait passé un examen pour évacuer une maladie à corps de Lévy ou un Alzheimer. Elle ne l'avait pas 2 ans auparavant. Néanmoins, elle nous a fait un énorme pic d'hallucination. En fait, on l'a plus retrouvée, quoi. C'est-à-dire qu'elle est rentrée à la maison parce que la gériatre qu'il avait vue il y a 2 ans pendant quelques jours, la seule période d'hospitalisation avant depuis 5 ans, nous a dit « elle m'a reconnue, donc je vous la renvoie ». Bon, maman est revenue, j'avais fait venir un lit Alzheimer au sol et tout. Et en fait, on l'a gardée à la maison avec papa 21 jours et 21 nuits. Et sur cette période-là, 17 appels, la nuit aux pompiers que j'ai dû faire. Parce que même les barreaux du lit médicalisé Alzheimer au sol, elle les fracassait. Elle trouvait une force pour se lever alors qu'elle était en déambulateur depuis plus de 3 ans. Hein. Évidemment, elle ne marchait plus seule du tout. Et elle avait des visions. Elle me disait que Nils, mon frère décédé, prenait trop de place dans le lit.
Vous sentiez que c'était la fin, quoi.
Non, pas du tout.
Non, vous sentiez
pas du tout, puisque 3 mois avant, je vous dis, elle jouait avec
à ce moment-là.
Ah, elle était complètement en mode, effectivement, délire, hallucination auditive et visuelle. Et c'était très dur parce que je la retrouvais quand j'arrivais à entrer dans sa chambre pour lui prendre tout de suite les constantes, voir ce qu'il fallait faire, etc. Redonner un Xanax, redonner autre chose, prendre une Dextro. Et je la trouvais comme une enfant en train de se mutiler les cuisses avec des boules de Noël, des vieilles épingles de sa grand-mère à elle. Et je lui disais « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Il est 3 heures du matin, tu devrais dormir. » Parce qu'elle avait inversé le jour et la nuit, donc rien ne la faisait dormir en injection, les infirmières, rien. Et elle me disait, je prépare le Noël là, pour les enfants. Et là, j'ai réalisé qu'elle me prenait pour son père décédé, puisque toutes les nuits, je dormais au-dessus de sa chambre, j'étais obligée de fermer à clé, j'avais peur qu'elle se mette en danger ou qu'elle ne mette papa en danger. Et je l'entendais appeler au pas, et elle me prenait pour son père. Donc je descendais... Et puis j'appelais les pompiers parce que le temps que je descende, elle avait voulu se lever, boum. Alors le dernier appel, j'ai dit aux pompiers, écoutez, faites quelque chose parce que je ne supporte plus de la voir se faire mal, et se casser les côtes, s'ouvrir les arcades sourcilières. C'est très très dur et comme je suis en manque de sommeil depuis 3 semaines, j'ai pas dormi une heure. Il faut que je tienne papa aussi, c'est compliqué. Si vous n'emmenez pas maman hospitalisée tout de suite pour que quelqu'un prenne soin d'elle et l'éveille sur elle, je lui prends un coup d'une fourchette, je le mets dans le mollet et vous l'emmenez.
Karen, j'ai vous demandé d'être un petit peu plus concise parce que l'heure tourne et vous avez besoin de conseils, je ne vais pas y arriver.
Absolument. Alors, s'en est suivi que maman a dû... Le seul endroit où il y avait de la place pour prendre maman en urgence, c'était en psychiatrie, malheureusement, vu les circonstances de ma naissance, je lui avais promis de ne jamais la mettre en psychiatrie. Elle est restée à Sainte-Anne pendant 2 mois. Je suis allée la voir 2 fois en passagère clandestine en ambulance. Et elle était en mode totalement légume dans son fauteuil. Elle a ouvert les yeux 2 fois. Elle m'a serré la main et c'était tout. Donc j'ai fait les 1h30 de retour. Et puis je l'ai appelée absolument tous les jours pendant 7 mois. Puisqu'au bout de ces 2 mois, elle a fait son dernier séjour en hôpital, qui est une unité cognitivo-comportementale que j'ai pu trouver à Dax. Alors Dax, ça fait quand même très loin. Nous, on est en surendettement, donc pas de quoi évidemment envisager un taxi, billet de train compliqué. Ambulance, les ambulanciers avaient un peu de mal parce que je vomissais, mais vraiment énormément. Et puis surtout, entre la mort de mon frère et l'hospitalisation de maman, En plus de ma hernie cervicale que je ne peux pas opérer et qui fait que je suis sous corticoïdes depuis 2 ans et demi maintenant, avec mes nerfs jour et nuit, et bras paralysés à droite parce que je ne peux pas faire l'opération et laisser papa. J'ai détecté toute seule un carcinome canalaire infiltrant. Alors j'ai accepté de faire 24 heures à l'hôpital pour qu'on m'enlève tout le sein droit et qu'on me cure les selles. Et tous les ganglions, les 6, étaient mauvais. Mais le seul traitement que j'ai accepté, c'est un comprimé d'arinidex, d'hormonothérapie à prendre par jour. J'ai refusé direct rayon chimio parce qu'il est hors de question que je sois à plat, que je laisse papa pour aller sur Bordeaux tous les jours faire les rayons. Enfin bon, je vois quand même l'oncologue tous les 2 mois, les ambulances m'emmènent. Voilà, je la revois. Je vais passer normalement le 28 décembre, soi-disant en urgence, mais bon, il n'y a pas de place, c'est bien logique, hein, vu les temps qui courent, un scanner cérébral et scanner du corps entier. Parce que, voilà, je ne fais plus que 42 kilos et je dois tout faire, les courses à pied, les commissions à pied, gérer les gestions médicales, les paperasses, les dossiers de surendettement, m'occuper des 5 chats qui sont nos enfants, vraiment nos enfants, et qui nous tiennent vivants, papa et moi. Mais papa et moi, on est morts à moitié avec maman il y a 1 an et quelques. Elle est rentrée en HAD, à ma demande, 7 jours. Elle a tenu 7 jours et 7 nuits ici chez elle. Alors je peux me dire, oui, elle est morte chez elle. C'était une promesse. Mais par contre, quand l'HAD me l'a ramenée, elle qui faisait 95 kilos, elle en faisait 40. Elle avait fait une chute et un AVC qui soi-disant, ils n'ont pas vu. Donc, même les photos que j'ai prises d'elle dans le cercueil, parce qu'elle est trop belle, maman, on voyait le cocard malgré le petit maquillage. Que vous dire de plus? Les pompes funèbres, j'étais toute seule pour gérer tout ça par mes neveux et nièces qui sont venus le jour où les pompes funèbres l'ont emmené au crématorium parce que moi, je suis restée avec papa. J'ai dit, on ne veut pas de cérémonie. Moi, j'ai fait un pacte avec papa. Papa ne voulait pas de cérémonie. Il est quelqu'un de très réservé, de très pudique, de très... qui donne tout pour tout le monde et qui s'oublie lui-même et qui, évidemment, a perdu la seule femme de sa vie, 62 ans de mariage, quand même. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait de cérémonie. On a les amis qui ont envoyé ce qu'il fallait. Moi, j'ai dit, OK, pas de cérémonie. Mais comme on ne savait pas les volontés de maman, parce qu'on était loin de s'imaginer qu'il lui restait quand même au moins 3-4 ans, on espérait, avant que ça se dégrade, puisque le diabète était à peu près stable, et ben, elle est revenue 10 jours après du crématorium, on me l'a ramenée, j'avais refait sa chambre, ses posters du gaufret, de tout ce qu'elle aimait dans la vie, elle peignait, c'est une artiste fabuleuse. Donc voilà, maman n'est pas morte pour moi.
Vous êtes croyante, Karen?
Non, malheureusement, j'aimerais, j'essaye, j'envie ce qu'ils font, parce que je suis prête à prendre n'importe quoi qui me donnerait la foi, je ne le suis pas.
Vous n'adhérez à aucune religion, à aucun...
Je suis protestante, je suis allée à l'école, on m'a enseigné le catéchisme quand j'étais petite, mais bon, non, malheureusement, je sais très bien que quand c'est fini, et malheureusement, j'ai ce côté qui est peut-être fétichiste, hein, probablement aux yeux de beaucoup, qui peut-être être choquant, mais mes chats sont enterrés dans le jardin, avec des affaires particulières. Je mets des fleurs également. Mon premier chat décédé m'avait été le choc de ma vie. Ce Maine Coon, c'était ma vie pendant 14 ans. C'était mon sale gosse. Et bien, j'ai gardé. J'ai pas rasé le chat des poils, les poils du chat mort. Hein. C'est que les Maine Coon perdent des catons, des nœuds énormes tous les ans. Ils font des mues que je gardais et puis que je dors avec cette boîte à chaussures tout près de moi. Je le brosse encore, ça fait 11 ans qu'il est mort.
Bon, je vous dirais, peu importe, c'est votre manière de fonctionner, personne n'est là pour juger ça et je ne pense pas que c'est pour ça que vous m'appelez. Donc qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Comment pouvoir canaliser? Déjà, comment pouvoir, tenir le plus longtemps possible papa? Pour tenir moi, puisque je partirai avec lui, hein, de toute façon, aucune psychologue ou médecin, notre médecin depuis 26 ans qui nous suit tous les trois, papa, maman et moi, à Paris, ici à me dissuader, il sait très bien que j'ai ce qu'il faut, que je ferai ce qu'il faut, et c'est pas du tout un problème pour moi, hein, mais j'ai toujours su que je vivrais pas très vieille, puisque rien ne pourrait me faire, honnêtement, survivre au départ de mes 2 parents. Mes chats seront euthanasié par le vétérinaire qui est au courant depuis 5 ans que c'est en projet dans la décennie à venir, parce que c'est des chats tous recueillis et adorés et qui vont de 14 ans à 2 ans. Et comme ils ont tous des habitudes, des attitudes qui peuvent... Enfin, voilà, ça va être compliqué aussi, mais je ferai ce qu'il faut également. que je voudrais savoir, c'est comment avoir de la force pour me ressourcer, parce que j'ai tellement de choses à faire que je commence, je l'avoue, à être épuisée. Et comment également mon agressivité que j'ai tout le temps. Alors, le corticoïde m'énerve. L'attente des métastases, ça peut me stresser aussi. Néanmoins, j'ai ce qu'il faut pour me calmer en termes d'anxiolytiques qui sont minorés parce que je fume depuis 30 ans maintenant de l'herbe. Hein, c'est mon anxiolytique. Voilà, je ne l'ai jamais caché à personne. Je ne préconise pas. Tout simplement, c'est mon truc. Et les médecins sont dans cet aval parce qu'ils me connaissent depuis 30 ans. Mmh. Et en fait, le souci, c'est que j'ai une énorme agressivité depuis la mort de maman. Bon, les pleurs, les crises de larmes, ça ne s'est pas arrêté depuis cette date-là. Mais par contre, j'ai ce traumatisme qui revient visuel de cet ambulancier. Et ma psychologue ne fait pas d'hypnose et de MDR, et il n'y en a pas dans les 100 km à la ronde. Et l'agressivité que j'ai et qui sort sur papa, qui est juste la personne que j'aime le plus au monde avec maman. Et qui est tout ce qui me reste, et qui a 87 ans bientôt, et qui commence à avoir des problèmes. Il s'est fait opérer de la carotide en urgence le jour des 60 ans de mariage, cette andouille. Il a bien fait, le jour de la finale de la Coupe du Monde. Et puis maintenant, ben voilà, je commence à être dans le médical avec lui aussi, beaucoup. J'écoute la nuit s'il ne fait pas des apnées. Je fais venir le médecin toutes les semaines. Je vérifie son pied régulier parce qu'il veut garder une autonomie sur sa gestion de médoc, mais je vérifie rigoureusement. Et il a depuis quelques semaines troubles de mémoire énormes, de mémoire immédiate. Il n'arrive plus à marcher beaucoup. Je fais venir le kiné pour qu'il ait un lien social.
Vous repartez.
Aidez-moi là-dessus. Donnez-moi de la force, de l'énergie. Et comment canaliser ma agressivité autrement qu'en agressant papa toujours, en lui disant bouge de là, j'ai pas mon masque, 10 secondes. Des fois, je le traite de vieux con, mais on s'est toujours traité comme ça. On est fusionnels depuis que je suis gamine et ado. Tous mes week-ends, c'était avec lui, écouter le foot à la radio, chacun dans notre lit, à se crier des trucs. Bon, on se connaît, je veux dire, il n'y a aucune pudeur entre nous. Voilà. Mais le problème, c'est que je ne peux pas aller me défouler, faire du sport, parce que j'ai plus la force physique avec le cancer et autres, et pas le temps. Et j'ai pas beaucoup de temps pour moi, alors je ne mange que la nuit. Là, je suis au début de ma nuit, si vous voulez. Je vais me coucher à 5h du mat quand j'aurai fini d'étendre le linge. Et je vais me réveiller à midi. Parce que je sais que le matin, soit il y a une aide ménagère qui vient, soit c'est le kiné. Et puis papa ne se met pas en danger. Et après, je n'arrête pas jusqu'à ce que je me mette au lit. Donc comment, est-ce qu'il y a des trucs, des postures, des positions physiques à prendre, de la respiration qui pourrait me faire évacuer cette agressivité que papa comprend, évidemment, qu'il ne prend pas pour lui.
Bougez pas, je vais appuyer sur le bouton miracle, voir si on trouve une solution.
J'arrête, je ne parle plus, je vous écoute, excusez-moi.
Non, je vous dis sur le bouton miracle, parce que vous me demandez de solutionner quelque chose qui n'est pas solutionnable comme ça, et que vous ne voudrez pas entendre les solutions que j'aurais à vous proposer, donc on va vite tourner en rond. Voilà. Votre psy, vous la voyez à quel rythme? Vous lui parlez à quel rythme?
Tous les mois. Et elle est à disposition quasiment quotidiennement, si je voulais l'appeler. C'est la première fois que j'annule le rendez-vous de ce mois-ci. Là, je l'ai annulé il y a 8-10 jours.
Pourquoi ?
Je suis en train de me renfermer. Je m'isole.
Mais ça, c'est pas une chose.
Je suis isolée. J'ai jamais eu d'amis de ma vie non plus. J'ai une amie à Paris, mais que j'ai connue un an avant de quitter Paris. Donc, on s'est très peu connus et on s'envoie des textos. C'est un soutien. Voilà. Mais sinon, j'ai pas d'amis. J'ai mes parents. Je n'ai besoin que de mes parents.
Non, j'ai bien compris.
De nos chats et de la nature.
Je n'essaierai même pas de vous faire entrevoir les choses différemment. Je suis pas là pour ça. Simplement, si vous ne voulez pas avoir de psy, si vous me dites qu'à 100 km à la ronde, il n'y a pas moyen de faire de l'hypnose ou de l'MDR. Vous n'êtes pas sur ordinateur, donc vous ne pouvez pas télécharger non plus des méditations guidées. Est-ce que vous arrivez à méditer au moins toute seule? Est-ce que vous savez faire ça?
Un petit peu, respirer un peu. Avoir mes petits sas à moi, où je prends du temps pour moi, oui. Parce que j'ai deux passions depuis que je suis née, c'est le football et la musique. Et la musique, c'est de famille, le foot aussi, et ça, j'en profite. Donc, et la libre antenne, ça, c'est quotidien. Mais quand je vous dis quotidien, je ne loupe pas une miette. Peut-être très égoïstement pour avoir beaucoup de conseils que je pioche par-ci, par-là. Mais c'est vrai qu'en général, vous donnez des remèdes miracles. Respirer, oui, comment? Par le nez, par la bouche, combien de fois? Allongé, debout.
Mais ça, c'est pas à travers une émission de radio que je vais vous apprendre ça. Vous vous rendez bien compte que je peux pas vous apprendre là, à travers ça, à comment respirer, quelles sont les techniques. Ça se fait avec un thérapeute, ça. Je peux juste vous dire que ça existe, bien sûr. Mmh. Apprendre à respirer profondément pour vous détendre, apprendre à faire le silence pour aussi écouter ce que la vie a à vous dire. Apprendre à vous connecter avec la nature, puisque vous avez l'air d'aimer ça, d'apprécier cette énergie-là.
Ah, je suis en totale connexion. Là, j'entends le hérisson grignoter sous le noisetier et je suis consciente de la chance que j'ai. Bon, c'est une chance à double tranchant d'être locataire d'une maison à double étage avec un jardin où il y a des arbres. Parce que c'est une location qui coûte la moitié de la retraite de papa et du coup, les problèmes d'argent, ça a été depuis ma naissance. Hein. Maman vendait le piano de ma sœur vendu sur la place publique, c'est récurrent. Mais c'est pas ce qui nous a empêché d'être heureux, même si ça a fait quand même un petit peu empêcher papa de dormir tout le temps. Mais mon Dieu, la chance que j'ai de plus être à Paris, d'être là.
Alors justement, si je pense à quelque chose qui pourrait vous faire du bien, c'est tout simplement la visualisation positive, c'est-à-dire que simplement, si vous savez apprécier déjà l'environnement, c'est énorme. Donc prenez un temps deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, avec votre rythme, vous calez ça quand vous voulez.
Oui.
Mettez-vous là où il y a de l'air, le maximum d'oxygène possible.
Oui.
Fermez vos yeux et visualisez-vous le plus calme possible et rempli d'énergie, comme si vous arriviez à visualiser des racines qui sortent de vos pieds, qui vont absorber cette belle énergie qu'il y a dans la terre, voyez. Prenez le temps de laisser, par visualisation, monter une énergie, ça peut vous arriver dans l'esprit sous forme de couleurs, de sensations, de picotements, de choses comme ça.
Pour bien... Je suis envahie de choses comme ça depuis la mort de maman. Les odeurs de mon enfance qui me remontent. Mmh. J'ai à l'avance l'odeur des mandarines avec les clous de girofle. Beaucoup d'odeurs, de sensations, de toucher.
Et bien, par cette sorte de méditation ou de visualisation, faites remonter tout ce qui est bon pour vous. Tout ce qui est positif,
laissez,
comme si vous construisiez autour de vous une bulle et que dans cette bulle, vous remplissiez que des petites choses qui vous font du bien. Un souvenir.
Le problème, c'est quand on sort de la bulle, ça fait très mal parce qu'on y est tellement bien.
Et bien
les yeux fermés, c'est remonter de toute petite enfance qui me remonte. C'est tellement bon. Et dès que j'ouvre les yeux, j'ai l'impression, en un quart de seconde, je vous promets, je quitte le sourire pour des torrents de larmes. Je suis pliée en deux, je ne comprends même pas ce qui se passe.
Alors essayez d'imaginer que cette bulle, elle est toujours autour de vous, finalement. Parce que de toute façon, tout ça est invisible, ça n'est que dans votre cœur. Donc qu'est-ce qui empêche tout ça d'exister, même quand les yeux sont ouverts?
Ah oui. La bulle est extensible, c'est l'amour que j'ai pour maman est vraiment exponentiel.
Non seulement elle est extensible, mais comme elle est invisible, vous pouvez la garder toute la journée.
Oui.
Même les yeux ouverts et petit à petit, vous protégez à travers ça.
Et chaque fois, le gros souci, c'est la culpabilité parce que j'ai tué maman très clairement. Parce que si je m'étais rendu compte qu'elle allait mourir, pour nous, pour papa et moi, c'était pas du tout. En 7 mois, elle allait pas mourir. Elle allait rentrer à la maison. Le but, c'était qu'elle revienne stabilisée pour le jour et la nuit. Le reste, on gérait. Ce fut pas le cas. Elle est venue pour 7 jours et 7 nuits à agoniser. Et moi, j'avais tellement peur d'entrer dans la chambre. J'y allais furtivement plusieurs fois. Elle était complètement inconsciente. Une fois, elle a ouvert les yeux à peine. Elle m'a vu, papa et moi. Elle a tendu un bras. On a serré la main. Mais après, j'appréhendais parce que les services d'HAD que j'appelais toutes les nuits parce que je la voyais en détresse respiratoire, je disais, elle fait des apnées. Et il me disait, non, mademoiselle.
Karen, l'émission va se terminer. On ne va pas repartir sur tout ça. Le chapitre culpabilité, je crois qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé ce soir pendant une bonne heure en démarrant l'émission.
Oui.
Pour revenir à ce qui peut vous faire du bien là tout de suite, c'est vraiment ça. Travailler la visualisation.
D'accord.
La respiration, je ne peux pas vous apprendre ça à distance. Essayez juste au moins de respirer sur ce qu'on appelle les 4 temps. Vous inspirez en comptant jusqu'à 4, vous bloquez en comptant jusqu'à 4, et vous expirez tranquillement en comptant jusqu'à 4. Rien que ça, plusieurs fois de suite, c'est déjà le moyen de s'apaiser.
D'accord.
Et une dernière chose avant que l'émission se termine, je parle aussi souvent de ce qu'on appelle le butterfly hug, c'est-à-dire le câlin du papillon. Vous mettez votre bras...
Arrêtez, vous me faites envie à chaque fois que vous en parlez, mais avec mon bras droit paralysé, mon absence de sein, je ne peux absolument pas. Non.
Si, le
bras gauche, je ne peux pas.
Si, Karen, vous le faites...
Je fais du bras droit.
Vous le faites par visualisation. Simplement, fermant les yeux, vous imaginez que vous le faites. Et rien que ça, vous calez votre respiration sur ce que vous imaginez visuellement. Tout simplement.
D'accord.
C'est déjà une manière de... laisser descendre tout ça, tranquillement.
Okay.
Laissez sortir tout ce qui doit sortir d'excitation, d'énervement, de trucs négatifs et laissez rentrer tout ce qui est plus apaisant, tout ce qui est positif et tout ce qui vous fait du bien.
D'accord.
Hein? Et faites ça plusieurs fois dans la journée. Et petit à petit, c'est une manière de se créer une bulle protectrice comme ça. Et ça va être le mot de la fin parce que malheureusement, l'émission se termine déjà. Ça
D'accord.
passe tellement
écoutez,
vite quand on est ensemble.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir parlé. Ça fait du bien.
Bon, tant mieux, Karen. Je vous embrasse très fort.
Je vous embrasse également. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée à vous.
Merci. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est vrai que ça passe vite. Merci à tous d'avoir été là. Un grand, grand merci aussi pour vos nombreux SMS. J'ai pas eu beaucoup de temps pour partager vos réponses à ma question. Quel était votre péché mignon ? J'ai entendu parler de nounours, j'ai entendu parler de cartes postales, j'ai entendu parler de fleurs. Merci pour vos réponses. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h avec le même plaisir pour de nouveaux échanges. Et d'ici là, je vous quitte avec la phrase du jour. Ne renoncez jamais à un rêve à cause du temps qu'il faut pour l'accomplir. Le temps passera de toute façon. Bonne nuit et à demain.